Donc on est ici le chapitre 4 d'Hilchot Teshuva du Rambam. Rambam va citer maintenant 24 choses qui empêchent la Teshuva. Il faut les connaître, parce que si on veut faire Teshuva, il faut passer entre les gouttes, arriver à ne pas faire partie de ces 24 sortes de choses. Il dit à la fin, après avoir tout cité, je vous cite quand même pour que vous sachiez comment ça se passe, que toutes ces choses-là, bien qu'elles empêchent la Teshuva, elle ne l'empêche pas de façon complète. C'est-à-dire, c'est pas une chose qui t'a fait ça, c'est terminé, t'as aucune chance de faire tchouva. Tu peux. Simplement, c'est plus dur, et c'est une chose qui ralentit, on va dire, qui ralentit, qui empêche normalement de faire tchouva. Mais si quelqu'un il veut absolument faire tchouva, on peut jamais l'en empêcher, et il a part au monde futur. Alors, quelles sont ces choses-là? Il y a des groupes différents. Le premier groupe, c'est Dieu, qui va l'empêcher de faire tchouva, parce que le péché qu'il a fait est tellement gros, que du ciel, on t'a mis une sorte de, on veut plus te voir. On t'empêche, on met des sortes de, comme une histoire dans Talmud, on raconte que le roi Ménaché, c'est le roi de tous les Balei Tchouva. C'était un roi qui était, une cinquantaine d'années, il a été roi, pendant la moitié de ses 50 ans, 25 ans, c'était la Gestapo anti-religieuse. Tout ce qu'il sait faire Torah, il a brûlé, tout ce qu'il y avait de Torah, il a complètement éliminé. Et après, il a fait Tchouva. Et c'est le roi du palais du Balei Tchouva dans Olam Haba. Et c'est marqué que, comment il a fait Tchouva, il a été pris en prisonnier, en otage, en Babylonie. Et ils ont commencé à le torturer. Ils l'ont mis sur une sorte de casserole, comme ça. Ils ont mis un feu dessous, ils l'ont mis dans la casserole. Et il commence à sauter avec les pieds, il commence à faire un peu chaud. Alors, il a commencé à appeler toutes les idolâtries qu'il connaissait. Le Baal, réponds-moi. Moloch, réponds-moi. Bouddha, réponds-moi. Tout appelé. Rien qui se passe. Enfin, il s'est dit, il y en a un qu'on m'a appris quand j'étais petit au Talmud Torah, c'est le Dieu d'Israël. Lui, c'est des histoires. Je vais quand même essayer. Mais vrai, c'est rien pour essayer. Voir si ça marche, c'est vraiment que c'est lui. Mais sinon, c'est vraiment de la foutaise. Et il appelle Dieu d'Israël, sauve-moi. C'est marqué que les anges, ils ont mis des écrans pour pas que la prière elle passe. Ils n'ont pas voulu que ça passe. C'est quoi ces anges? Ça veut dire que quand quelqu'un il fait des péchés, ça crée des écrans. Et Dieu a creusé une mahila, une grotte spéciale par laquelle il a pris la prière de Ménaché et il a quand même accepté. Ça, c'est ce qu'on disons que les Balei Tchouva, hein, la force des Balei Tchouva, c'est que Dieu il rentre par un autre. Pas par la voie normale. La voie normale, c'est bouché. À cause des péchés que tu as fait, tu n'as pas de chance de revenir. C'est mort. Dieu va et te fait une sorte de raccourci. Hop, tu te prends par là-bas. Maintenant, donc, il y a des péchés qui empêchent la tchouva, comme Ménaché. Ça ne veut pas dire que c'est terminé pour toujours, mais c'est beaucoup plus dur. Parce que ce que tu as créé comme ange maintenant qui empêche ta prière, ta tchouva, ce sont des anges beaucoup plus grands, les écrans beaucoup plus épais. Alors, quels sont ces péchés-là? Il y en a quatre. Amartit Arabim, celui qui fait péché du public. Toi, tu fais un péché, ok. Mais quand tu viens maintenant parler aux gens, allez, venez, allez, on va aller en boîte, allez, viens, allez, fais pas le sadique, viens, allez, on va prendre un peu un pétard, allez, fais pas, allez, d'accord. Viens, je connais des filles pour... Ou bien il fait carrément des séminaires anti-religieux, il y a de ça aussi. Où il empêche les gens de faire une mitzvah. Pas forcément faire des péchés, mais il leur empêche de faire une mitzvah. Il veut aller étudier la Torah maintenant. Allez, je vais, venez, on reste, on va sortir boire un pot. C'est permis de boire un pot, d'accord, mais on peut étudier la Torah maintenant. Chaque fois que tu vas entraîner du monde à faire quelque chose qui est contraire à la Torah, c'est très grave. C'est très grave. Et c'est pas le sujet, mais entre parenthèses, faire le contraire dans le bien, c'est très bien. Quand quelqu'un fait faire du monde de plus de Torah, c'est certain que c'est le tout grand mérite qu'il puisse y avoir. C'est ce que Avraham il a fait. Avraham Avinu, il a été appelé par Dieu Ohavi, celui qui m'aime. Pourquoi c'est celui qui aime Dieu? Parce qu'il a fait 40 000 Balei Tchouva. Lui et sa femme, Sarah s'occupait des femmes. C'est pas comme aujourd'hui où on parle aux hommes et aux femmes mélangées. C'était même séparé, même à l'époque, même chez les Goïms, d'accord. Avraham parlait aux hommes, Sarah parlait aux femmes. Ils ont fait 40 000 Balei Tchouva. Qu'est-ce qui est resté de ces Balei Tchouva? Rien du tout. Ils ont disparu de la circulation, on ne les connaît plus, on ne sait pas qui c'est, ils ont disparu. Mais le fait qu'ils fassent une action pour l'honneur de Dieu, pour qu'il y ait plus de kdoucha dans le monde, ça c'est un très grand mérite. Et dans le contraire, quelqu'un qui fait pécher les autres, ou leur empêcher de faire des mitzvot, c'est très grave, ça empêche la tchouva. Le deuxième, Messit ou Mediar, Ça ressemble. C'est celui qui va faire maintenant, il va aller tenter quelqu'un de quitter la Torah, d'aller servir d'autres dieux, ou, aujourd'hui il n'y a pas d'autres dieux, mais allez quitter les Shiva, qu'est-ce que tu fais ici? Viens, on va monter un business, et on va aller au Club Med, c'est fantastique, ah, qu'est-ce que tu perds ton temps, d'accord? Ça ressemble au premier, mais c'est plus précis, c'est au niveau de une voie, d'une bonne voie à une voie mauvaise. Pas simplement, on empêche de faire une mitzvah, on fait faire un avera, on prend une voie carrément, on lui dit, change de voie, prends une voie qui est mauvaise. Troisième, celui qui voit son fils, qui est en train de quitter la Torah, et ne fait rien pour l'en empêcher. Et là, c'est sa vie, c'est ce qu'il fasse ce qu'il veut, et puis tant pis, moi j'ai fait ma vie. Hein? Ça dépend qui, quoi, comment. On doit tenter de faire, il faut faire ces choses intelligemment. C'est certain que les enfants ne sont pas des sacs de patates que tu peux mettre comme ça où tu veux, ils ont leur vie. Mais si tu sais agir, tu peux en tout cas essayer. Quelqu'un, il ne peut pas. Mais il faut essayer, pas dire, ok, c'est son affaire, terminé, moi j'ai rien à faire. Non, c'est ton fils, c'est une responsabilité. Alors, Rambam dit non seulement avec son fils, mais avec n'importe quelle personne sur laquelle tu as de l'influence. C'est marqué, quelqu'un qui a une influence qui peut sur sa famille, et il ne fait pas une tochecha, tochecha c'est corriger, leur dire c'est pas bien ce que vous faites, alors le péché revient pour lui aussi. Dans le Talmud, on parle, ouais, n'importe qui, si tu as une influence. Il faut avoir beaucoup d'honneur. C'est pas, papa, tu fais une erreur, pas comme ça. Peut-être, ce serait éventuellement, après Shiva, que c'est bien de faire comme ça. Il faut tout en traître, enrobé de chocolat, d'accord. Faire une tochecha, c'est tout un art dans la douceur de le faire. Mais si quelqu'un ne le fait pas, parce que ça lui casse les pieds, alors il est nitfas, c'est-à-dire qu'il est attrapé par le même péché. On voit la Gemara raconte l'histoire de la para, de la vache, de Rabbi Hanina, de Rabbi, comment il s'appelait, Parato, Shel, Rabbi Hanina ben Dosa, c'était Rabbi Elazar ben Azaria. La para, la vache, de Rabbi Elazar ben Azaria, qui sortait. C'est Shabbat, vous savez que non seulement nous, on n'a pas le droit de faire du melachot, mais aussi nos animaux. Toi, c'est marqué toi, ta femme, tes enfants, tes animaux, tes serviteurs, personne ne fera de melacha. Donc si maintenant, l'animal fait le melacha, fait une action interdite de Shabbat, nous on fait un péché. Or, on n'a pas le droit de porter à l'extérieur. Un animal non plus n'a pas le droit de porter à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il veut porter? Ses habits. Et la Gemara a tout un perek, tout un chapitre dans le traité Shabbat qui parle de quels habits c'est considéré comme un habit de l'animal et peut sortir avec pour n'importe quelle sorte d'animal. Et qu'est-ce qui est considéré comme une chose qui est inutile, qui est en trop et n'est pas un habit. Et là, elle porte. Alors on parle maintenant, si on met un ruban entre les cornes. C'est marqué que la parato, la vache de Rabbi Elazar ben Azaria sortait avec un ruban entre ses cornes. Dit la Gemara, c'était pas du tout sa vache. Lui, il avait des dizaines de milliers de traries, il avait des dizaines de milliers de vaches. C'est pas sa vache. Et aucune d'elles sortait avec un ruban entre les cornes. C'est qui sa vache? C'est la vache de sa voisine. Ah, pourquoi on dit la vache de Rabbi Elazar ben Azaria? Parce qu'il aurait dû lui dire à la voisine, il ne lui a pas dit. Alors on appelle cette vache en son nom. Que je suis en train d'exprimer maintenant, que lorsque tu peux faire à quelqu'un qui ne fasse pas un péché, et tu le laisses faire, le péché revient à toi. Alors, faut pas maintenant partir en mission de croisade et aller vouloir partout où on voit quelqu'un qui fait un péché, aller le lui dire de peur qu'on va être attrapé. Comme j'ai dit, faire une tochecha, faire une correction, c'est extrêmement délicat. Faut avec beaucoup de gentillesse, de un à l'autre, sans que d'autres personnes entendent pour ne pas lui faire honte, avec beaucoup de douceur, lui dire je dis ça pour Olam Haba. Pas que ça m'énerve qu'il le fasse, si ça m'énerve ça m'énerve quand il fait une avera, ça vient pas d'une source qui est pure en moi, c'est d'une source qui est en concurrence. Il faut vraiment avec beaucoup de pureté, dans ce cas-là, il va entendre, et on pourra, dans un chemin, le faire quitter la bonne voie. Si maintenant, je n'ai pas fait ça alors que je pouvais le faire, alors c'est marqué, on l'a attrapé. C'est marqué, le rave d'une ville, il est attrapé par tous les gens de la ville, et celui qui peut influencer sur toute la génération, sur le monde entier, il ne le fait pas, alors il est attrapé par le péché du monde entier. C'est une très, très, très lourde responsabilité.
Il faut le faire plusieurs reprises ou pas? C'est-à-dire, si la personne est.
Oui, jusqu'à ce qu'il il t'insulte. Il dit arrête ou. D'accord, ouais.
Alors, si la personne veut faire donc.
Mais excuse-moi juste encore, il faut être propre du même péché. La Gemara dit si tu viens maintenant faire une correction à quelqu'un, et lui te répond tu viens me dire maintenant d'enlever le cure-dent que j'ai entre mes yeux, t'as vu la poutre que t'as entre les tiens, toi tu viens me dire la shonara. Moi la shonara, ouais, ok, mais t'as vu un peu comment toi tu parles, la shonara. C'est la façon de dire. Tu viens me dire maintenant de lever un cure-dent, un petit morceau de bois que j'ai entre mes yeux. T'as vu la poutre que tu as entre les yeux, toi? Ça veut dire.
C'est pas qui répond, ça. Mais si voilà. La poutre, sans qu'il le sache. Alors à ce moment-là, est-ce que je dois mettre tout faire?
Les choses se savent. Et au niveau de la pureté, il faut beaucoup de pureté pour faire une correction qui soit acceptée. Le vrai problème, c'est que la personne ne veut pas accepter. Parce que, non, elle m'entend qu'il est mal. Fiche-moi la paix. Toi, t'es mieux que moi. Toi aussi, t'as fait hier des trucs comme ça. Si tu es pur à ce niveau-là, alors t'as beaucoup plus d'impact. Parce que ça provient d'un sentiment pur. Oui, quelle est ta question?
Maintenant, on allait voir une personne pour lui dire, par exemple, ça, c'est pas bien de faire.
Ouais.
Mais qu'on n'est pas assez compétent pour lui dire, mais on le sait. On va le faire, donc on va lui dire.
Alors, fais autrement. Viens quelqu'un dire à un rabbin qui pourrait peut-être lui dire, et lui pourra lui parler avec plus de douceur.
Il se trouve que là c'est la douceur, par exemple, à Yeshiva, il n'y a pas forcément d'erreur. Maintenant, on se retrouve à aller à une édition, on dit, voilà, ça va pas.
Non, très bien. Très bien.
Et après, la personne, voilà, va nous entraîner parce qu'on a appris que quelqu'un qui voulait essayer de. On va dire
de corriger
les autres pouvait tomber avec lui s'il n'était pas assez fort. Et on a dit qu'il fallait faire attention, et c'est pour ça que tant qu'on n'a pas de niveau, il fallait rien dire à personne.
Si.
Alors là, on voit qu'il faut dire.
Non, si tu risques de tomber, alors on n'a rien gagné dans l'histoire. C'est certain, même si tu te taises. Non, si tu te. Bon, il faut faire attention. C'est vrai que quand tu viens parler à quelqu'un pour le convaincre sur le mitzvah, il y a un risque qui va te convaincre du contraire. Il faut être suffisamment solide pour ne pas tomber. Sinon, ça ne sert à rien. Si on va sauver les gens puis on coule avec, on n'a rien fait du tout. Au moins, parce qu'il y a un qui se noie, il y en a deux qui se noient. Ken. Quatrièmement, tu veux qu'il dise, je ferai des péchés, après je ferai tchouva. Ou bien, celui qui dit, je ferai des péchés, Yom Kippour, pardonne. Lui, on l'empêche de faire tchouva. Maintenant, un autre groupe. Cinq choses qui cadenassent les voies de la tchouva. Comme ça, dit le Rambam. Cadenassent, ferment les voies de la tchouva. Elles sont. Celui qui quitte les voies du public. Le public, on vit dans une communauté. On vit avec des gens. Et, par exemple, à l'Eshiva, une petite communauté. Il y a quelques conférences qu'on amène, des rabbins ou moi-même, on parle maintenant de l'importance de la tchouva, du Yom Kippour. Et lui, il va dormir dans son lit. Alors, il ne fera pas tchouva, parce que les rabbins sont là pour réveiller les gens, pour leur dire de faire tchouva. Et lui, il est à côté, il n'entend pas ce qui se dit. Donc, il ne peut pas faire tchouva, il n'est pas au courant de qui, quoi, comment. Yom Kippour arrive. Ok, Yom Kippour, un jour de jeûne, et la vie continue. Il passe à côté des choses essentielles de la vie. C'est un exemple, d'accord. Chaque fois que vous avez une communauté, la communauté, elle est dirigée par des bergers qui vont leur dire comment faire tchouva. Lui, qui ne fréquente pas la communauté, il ne saura pas qu'il doit faire tchouva et comment faire tchouva.
Mais c'est
oui, mais c'est pas. On vit en communauté. On vit en communauté. Il y a des questions, il y a des. La Torah, c'est une Torah orale. C'est pas une Torah écrite. Elle est orale.
Mais le tchouva est passé.
Oui, mais c'est marqué Gadol Shimusham, il est plus grand, et le fait de voir comment un rave vit plutôt que d'apprendre chez lui. Parce que c'est une voix orale, tu vois comment, où mettre l'essentiel, où mettre l'accessoire. Celui qui apprend que dans les livres, alors c'est vrai qu'il pourra apprendre beaucoup de notions, mais il ne saura pas dans la vie qu'est-ce qui est accessoire, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui passe avant, qu'est-ce qui passe avant. Ça, c'est une éducation. L'éducation ne se fait pas par des livres, ça se fait par l'exemple et par les questions-réponses qu'il y a sans cesse. On est toujours en binôme, d'accord? De rav à élève. C'est comme ça que ça se passe, parce qu'on peut enseigner. Bête. Deuxième chose. Celui qui n'est pas d'accord avec parole des sages. Il y a des sages d'Israël, des grands d'Israël, des rabbanim. Lui, je ne sais pas, lui, il dit n'importe quoi, je ne suis pas d'accord avec lui. Là aussi, c'est la même chose. Vu qu'il ne saura pas maintenant. Vu qu'il n'est pas d'accord avec les rachamim, les rabbanim, il ne va pas les écouter, et donc il ne connaît pas les voies de la tchouva, comment on doit faire. Troisièmement, celui qui se moque des mitzvot. De même aussi, comment, s'il se moque des mitzvot, comment il va faire tchouva, comment il va se rapprocher des mitzvot. Pour lui, les mitzvot, c'est n'importe quoi, c'est de la foutaise, comment il va se rapprocher des mitzvot. Quatrièmement, celui qui dénigre ses rabbins. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui dénigre ses rabbins, alors les rabbins vont le renvoyer aussi, et devenir surtout tout seul, sans guide qui pourra l'aider à faire tchouva. Cinquième, celui qui déteste qu'on le corrige. Et ça, c'est beaucoup de gens sur terre. Personne aime entendre qu'on a fait une chose qui n'est pas bien. C'est marqué, Al tochach letz pen isnaeka. Ne fais pas une tochacha, une correction, à un letz, un railleur, parce qu'il va te haïr. Un railleur, il n'est pas sérieux. Lui, la vie, c'est la rigolade. Tu vas lui dire, écoute, il y a des choses importantes. Ah, vous les religieux, ouais, tu m'embêtes toujours, je veux sortir, encore tu viens, tu te prends pour un rat. C'est un lettre, c'est un railleur. Tu comprends? Je te dis une chose qui est intelligente. Qu'est-ce qu'il me répond à moi? Réponds ce que je te dis. C'est bien ce que tu fais. Il ne veut pas écouter, il n'est pas sérieux. La suite du verset dit, fais une tochecha, une correction à quelqu'un de sage, il va t'aimer. Le sage, il aime qu'on lui dise, qu'on fasse ce qu'on appelle une remarque constructive. Pas espèce de triple imbécile, comment tu oses faire une chose? Non, ça, c'est pas comme ça qu'on vient. On dit, t'es un type bien. je t'apprécie beaucoup, tu sais. Et l'autre jour, tu as fait une chose comme ça. Je penserais mieux si tu arrives à corriger. Je dis ça pour ton bien, d'accord. Moi, j'en ai affaire, mais c'est pour que toi, que tu ailles. Que alors là, maman, c'est une remarque constructive, je pense. Tiens, prends. Je ne sais pas quoi faire, mais ça. Écoute ce que je vais te dire. Ça vaut la peine de ça peut-être arranger. Ça, c'est dit intelligemment. Et lui, vu qu'il veut s'arranger, c'est un chacham, un sage, alors au contraire, il va profiter, il aime, un sage aime entendre les remarques constructives qu'on peut lui faire pour avancer, parce qu'il n'est pas suffisamment critique avec lui-même. Le railleur n'aime pas cela. Et lui, il ne pourra pas faire choix, parce que personne ne va oser lui dire, c'est-à-dire que si on l'effleure du doigt, déjà, il saute comme un lion. Donc, celui-là, les portes de la tchouva lui sont fermées. Encore cinq choses. Le Rambam nous dit, à propos de cette chose, on ne peut pas faire une tchouva gmoura, une tchouva parfaite. Pourquoi? Parce que il s'agit de averot, de péché qu'il y a entre l'homme et son prochain, et son prochain n'est plus là pour qu'on puisse lui demander pardon. Donc même si tu regrettes beaucoup, mais tu ne sauras plus à qui, comment faire pour demander pardon, il n'est plus là. De quoi on parle? Celui qui insulte, qui maudit un public. Les juifs, que les juifs français soient tous maudits. Amen, Kérasson. Par exemple, hein, il dit comme ça, par exemple. Ok? Maintenant, pour corriger, comment il faut demander Mechila à tous les français? Tous les juifs français. Allez.
Je dis Mechila à tous les français.
Non, tu peux pas. Il faut que eux disent. Toi, tu as maudit maintenant un public, tous les juifs français.
Alors, quand je dis, ben, je demande pardon.
À qui tu demandes? Mais il faut qu'eux te pardonnent, mon cher. Mais il faut qu'ils te pardonnent.
Je leur demande trois fois.
Hein?
Ça demande trois fois, pour être sûr.
Mais il faut qu'il te pardonne.
Ça demande trois fois.
Mais il faut qu'il te pardonne.
Mais non.
Si.
Parce qu'après, la faute, elle est sur eux.
Hein?
On dit ça.
Tu dois demander pardon, il faut qu'il te pardonne. C'est pas je demande pardon comme ça.
Et trois fois.
Tu sais quoi? Moi, je vais aussi demain, je dois aller un peu d'argent. Et je vais dire, Gary, pardonne-moi. Pas à toi. Hein? Je vais dans ma chambre tout seul. Gary, pardonne-moi. Voilà. Ben, trois fois, il m'a pardonné. Si, il ne m'a pas pardonné, Gary. Elle a eu la faute. Et je garde l'argent dans la poche.
Non.
C'est des bêtises.
Là, j'ai maudit le public. Et là, je demande pardon pour le public aussi. J'ai visé personne.
Mais quand tu demandes pardon, il faut aller. Tu dois aller. Tu dois avoir honte. Ils doivent entendre que tu demandes pardon. Et là, ils disent on pardonne. C'est trois fois. Ils ont entendu tu demandes pardon. Et ils n'ont pas pardonné, alors tu es désengagé de l'obligation de demander encore plus. Mais si tu dis pardon dans ta chambre, c'est rien du tout. Je demande pardon. À qui tu demandes pardon? Au mur?
Ben non, de la même façon que je les ai maudits.
Mais quand tu fais malédiction, ça agit seul. Mais un pardon, ça agit pas seul. Un pardon, il faut le demander.
Non, je suis seul.
Là, je suis devant vous. Je dis maintenant, voilà, je maudis au nom de HM tous les juifs français. C'est un exemple. Ben bon. D'accord? C'est quelqu'un qui fait ça sérieusement, hein, il doit aller demander pardon à tous les juifs français. Il n'est pas sorti de la galère. Donc, on a vu celui qui maudit un public. Il ne peut pas faire tchouva parce qu'il ne sait pas à qui demander pardon. Deuxième, le receleur. C'est-à-dire, il y a des voleurs, un voleur, et toi, tu fais moitié-moitié avec lui. D'accord? C'est toi qui l'aides à écouler la marchandise qu'il a volée. Alors, tu es complice avec lui dans le vol, mais tu ne sais pas de qui il a volé. Un jour, tu fais tchouva, comment tu peux faire tchouva? Tu ne vas pas te donner son carnet d'adresse, d'accord, son fichier de qui il a volé. Donc, tu es complice avec un voleur, tu ne peux pas faire tchouva parce que tu ne pourras jamais rendre l'argent qui a été volé.
Donc, comment on fait?
Donc, on n'est pas receleur. Tous ces cas-là, c'est un problème. C'est-à-dire que la tchouva n'est pas gmoura, mais la tchouva n'est pas totale. Alors, il y a une certaine tchouva. Quand quelqu'un il a volé, il ne sait pas qui il a volé, alors on a déjà dit qu'il fasse tzedaka au rabim, au public, c'est-à-dire qu'il donne de l'argent, la même valeur qu'il a volé, pour une cause publique qui aide le public. Il achète un banc dans la commune, il achète un Sefer Torah, il achète des livres pour la synagogue, des choses comme ça, dans la région où il a volé, et en espérant que la personne qu'il a volé va utiliser ces choses-là, comme ça il l'a remboursé. Troisième chose. Celui.
Si la personne n'est pas juive, hein, alors elle ne pourrait jamais utiliser un. Soit le
Sefer Torah. Ok, je dis un banc public par exemple.
Et pour la malédiction, c'est fichu.
Non, la malédiction c'est fichu, ouais. Alors qu'il est béni.
C'est considérable de voler un goy que de voler un juif.
Pardon? Les deux sont interdits de la Torah. Voler un juif, voler un goy, les deux sont interdits de la Torah. De oraita. Troisièmement, Amotse Aveda, celui qui trouve une chose perdue. La Torah ordonne, si tu vois une chose perdue, tu n'as pas le droit de d'ignorer la chose, tu es obligé de la prendre et de mettre des petits billets dans toute la région où ça a été perdu. Avons trouvé porte-monnaie, avons trouvé trousseau de clés, avons trouvé un stylo en or, avons trouvé n'importe quoi, soit restitué avec des signes, veuillez téléphoner à l'adresse suivante chez monsieur Intel. Il faut mettre son nom, qui on est, l'adresse et le numéro de téléphone pour que le type puisse appeler. Après, il dit, voilà, c'est moi qui ai perdu le stylo en or. Il faut demander, donne-moi des signes. C'est un parker, c'est un... il est un peu amoché sur le côté gauche. Bon, il faut qu'il donne des signes qui puissent, effectivement, tu puisses vérifier que ça lui appartient vraiment. Quelqu'un, maintenant, qui ramasse la chose et ne fait pas des petits billets. C'est casse-pied. Il faut créer 10 petits billets, aller les mettre un peu longtemps dans tout le quartier. Il dit, moi, je ferai ça demain, après-demain, une semaine, deux semaines, un mois. Des 6 mois passent. Boutimain se dit, ouh là là, je dois faire chouva là-dessus, le stylo en or est toujours chez moi, et Yom Kippour, je vais maintenant, je mets les billets, ça ne sert plus à rien. 6 mois plus tard, le type avec son stylo, il a déjà oublié son stylo, il est parti à Honolulu, et c'est complètement terminé. Alors maintenant, comment tu vas rendre à la personne le stylo en or? Tu dois le rendre. Pardon?
On l'a trouvé, tu vois.
Non, c'est interdit. C'est interdit. Ça, c'est comme... Maintenant, tu es devenu le gardien de cette chose-là. Si tu le reposes dans la trouvaille, c'est comme si tu avais... Je te demandais, garde-moi 1000 dollars et tu l'as posé dans la rue. C'est la même chose exactement. On a mis cela quand on trouve une chose qui est perdue, de le ramasser et de faire une akhraza. Donc, annoncer cela dans l'endroit. Et si on ne fait pas ça, alors on est voleur. Ken. Quatrième chose, celui qui mange. Ici, le Rav nous parle d'un bœuf qui appartient à des pauvres, des orphelins et des veuves. Il a volé, en deux mots, on parle de gens qui sont pauvres et qui errent de ville en ville. Et quelqu'un vient maintenant et les vole. Demain, il fait tchouva, va les retrouver. Et ces gens errent de ville en ville, tu ne sais plus jamais où ils sont. Si tu as volé la villa de M. Rothschild, tu sais pas où il habite à la rue Intel. Et tu connais très bien la villa, tu étais là-bas plusieurs fois déjà faire quelques hold-up, donc tu peux aller lui rendre. Mais si tu as volé maintenant des pauvres qui errent de ville en ville, comment tu vas leur rendre? Problème.
Si le monde a volé par exemple un monoprix ou quelque chose comme ça, je peux dire, on a volé, c'est le prix, c'est juste ça. Ils vont me prendre, vous nous avez là où dans les caméras, et moi je vous dis, enfin, qu'est-ce que c'est chinois?
Je te répondrai après, je ne vais pas répondre sur Internet comment on fait. D'accord? Je te répondrai après. Cinquième chose. Celui qui reçoit, un juge qui reçoit un pot de vin pour dévier le jugement. Ou même pas pour dévier le jugement. Si quelqu'un lui donne un pot de vin maintenant pour juger équitablement. Mais la Torah nous dit que si on donne un pot de vin à un juge, forcément le jugement sera dévié. Le juge, il fait tchouva. Il fait tchouva. Je regarde, j'ai pris un pot de vin. Mais maintenant, tu as jugé en déviant. Alors, tu vas dire maintenant, il y avait quelqu'un qui disait, il me doit 10 000 dollars, l'autre dit non, oui, non, pour finir, tu as dit, ok, tu lui rends 8 000 dollars. En fait, ça devait être moins que 8 000 dollars. Mais combien? Tu ne sais plus, tu ne pourras jamais savoir. Au moment où tu as jugé, tu n'étais pas capable d'avoir un jugement impartial parce que tu avais un pot de vin. Maintenant que tu fais tchouva, tu ne peux pas rejuger de nouveau. Tu ne peux pas rejuger. Tu ne peux pas savoir à combien maintenant tu as dévié. Est-ce que tu dois maintenant à la personne qui était lésée 500 dollars en plus, 1000 dollars en plus, 1500 dollars en plus? Tu ne sais pas. Donc c'est une chose à propos de laquelle il est très très dur de faire choix parce que tu ne sauras jamais combien il faut rendre. Non mais tu sais qu'on parle d'un jugement. C'est un jugement qui est simple. C'est facile, mais on parle d'un jugement où les choses sont fines, ne sont pas claires. Et toi, ton cœur, il tombe plus vers quelqu'un, donc tu changes de jugement. Les choses qui sont claires, ce n'est même pas un jugement. Ça, c'est une loi, tchic-tchac, on établit ce que dit la loi et terminé. Mais quand c'est un jugement, c'est fin, il y a des côtés comme ci, des côtés comme ça. Alors tu dois juger maintenant, essayer d'être le plus impartial possible. Tu n'arrives pas à être impartial, parce que tu as reçu un pot de vin. Maintenant tu fais tchouva. Comment tu peux être maintenant impartial? Impossible. Tu ne sais pas combien tu as dévié par rapport à la vérité. Tu ne sais pas où est la vérité, donc tu ne sais pas combien tu as dévié par rapport à la vérité, pour que tu puisses rétablir sur la bonne vérité. Tu ne sais pas où est la vérité et tu ne sauras jamais où est la vérité. On finit? Non, on finit pas. Et encore un autre groupe. Le groupe encore de 5 choses.
Et donc, comment faire pour un jugement?
Alors, toutes ces choses-là, je dis maintenant, ce sont des choses à propos de laquelle la tchouva, elle est impossible de façon totale. faut éviter de faire ce genre de péché. Pour pas, parce qu'après c'est très dur de faire choix là-dessus, parce que tu pourras jamais vraiment bien réparer. Dans le cas du jugement, alors que tu donnes le juge qui a fait un jugement impartial, qu'il rembourse la personne lésée dans d'une somme à propos de laquelle il est certain que c'est déjà au-delà de la vérité. Moi j'hésite, est-ce que je t'ai lésé de 500 dollars ou de 1000 dollars, 1500? Écoute, pour être certain, je donne 2000 dollars. Ça c'est certain que ça te revenait pas de toute façon. Là c'est certain que tu l'as.
La choua est complète.
Oui, absolument. Cinq choses, un groupe de cinq choses, au cours desquelles il y a une présomption qu'on ne fait pas de tchouva. Faire attention de ne pas faire ces choses-là parce qu'il y a une présomption, une chazaka. Chazaka, ce que nous pensons quand on voit quelqu'un qui fait ça, on sait que normalement il ne fera pas de tchouva là-dessus. Pourquoi? Ce sont des choses qui ont l'air légères, et le type il dit, mais c'est pas un péché ce que j'ai fait, il ne fera jamais de tchouva là-dessus. Lesquelles sont? Haochel, Misouda, Shenam, Sweke, le Baaléa. C'est une chose qui est courante, les gens ne savent pas. C'est l'occasion très heureuse d'en parler. Est dans votre chambre. Il s'est acheté maintenant une pizza. Tu rentres, tu dis la bonne pizza. Lui, il est gêné. Il mange sa pizza tout seul. Toi, en face, tu regardes la bonne pizza, tu ne manges pas de la pizza. Qu'est-ce que je dis? Tu veux un petit bout? S'il me propose, je ne dis pas non. C'est du vol. Avak gazelle, poussière de vol, vol des rabananes. Parce que lui, il préfère bien ne pas te donner la pizza. Mais il a honte. Alors il te la donne, mais quelque part.